Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h05, vous écoutez RMC, merci beaucoup d'être à l'écoute des Grandes Gueules du Sport. Fred Weiss, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat. Ce matin, les Grandes Gueules du Sport, vous le savez, qui vous accompagnent tous les week-ends de l'été, même pendant vos vacances. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver le podcast des GG, notre débat de la première heure autour du Paris Saint-Germain avant la reprise du championnat ce soir pour les champions en titre. Dans une heure, on reparlera de foot d'ailleurs avec la saison de Mbappé à venir entre la Coupe du Monde et la deuxième saison à Madrid. Est-ce que cette saison, c'est un tournant dans la carrière de l'attaquant français? 32-16 pour nous rejoindre.
Tu veux m'arrêter?
Et on sera en direct de Madrid avec Edgar Grelot. T'as pas le droit, je m'en fous. Mais je m'en fous. Hein.
Non, mais parce que moi, oui, c'est un tournant.
Ah, oui,
parce que je sens que Pascal, il va grimper en
haut. Ben voilà, ouais, je sais bien. Dans 30 minutes, la punchline est signée Bjarne Riis, l'ancien vainqueur du Tour de France en 96, qui avoue avoir été dopé jusqu'au cou. Alors, on le savait qu'il était dopé, il l'avait déjà dit, mais il dit qu'il ne le regrette absolument pas. On en parlera dans 30 minutes. Et je vous rappelle qu'à 11h30, Boris Diaw sera notre invité exceptionnel dans les grandes gueules du sport. On va avoir un 5 majeur, en fait, dans les grandes gueules du sport.
On aura deux majeurs.
Vous me prenez un escabeau parce que sinon je peux pas.
En meneuse, Sarah, parfait.
Sinon je peux pas rentrer dans le 5
majeur. On aura, voilà, hein, on peut faire du small ball comme on dit.
Ah ouais, oui, ça. Ah ouais. Small ball quand même. Vous pourriez jouer à deux nains.
Hein. Ouais. Bon, attention. Boris Diaw sera avec nous, légende des Bleus. Soyez au rendez-vous 11h30 avant le début de l'Euro, à 10 jours du début de l'Euro pour l'équipe de France de basket. Et puis vous le savez, dans 45 minutes, ça sera votre moment, les GG. Vous prenez les commandes de l'émission. Les GG contre-attaque, vous allez proposer un débat et c'est à vous, les auditeurs, de choisir votre débat préféré sur le compte X des grandes gueules du sport. On va commencer par Sarah Pitkowski.
Ouais, alors, moi je vais vous parler de la Ligue 1 Plus. Alors, entre articles ultra positifs, appels aux abonnements des joueurs de Ligue 1 eux-mêmes, c'est plus sauver le soldat Ryan, c'est sauver le soldat Ligue 1 Plus. Alors, je voulais savoir si vous étiez convaincu par ces premières images, ces commentaires, ces émissions, et est-ce qu'on a un devoir de solidarité avec cette nouvelle chaîne, la Ligue 1 Plus? Voilà.
Excellent débat, il va falloir être très bon et très persuasif. Pascal Duprat.
Donc hier j'ai pris une tôle,
ouais.
Donc j'aimerais me relever parce que je suis un sportif de haut niveau et j'aimerais être absolument sérieux. Je voudrais vous parler d'un sujet. Vendredi soir, j'ai été ému par l'attitude du COP de Liverpool et de Mo Salah qui ont honoré la mémoire de Diogo. Et qui ont chanté et Salah avait les yeux mouillés. Puis ensuite j'ai écouté la conférence d'Arne Slot qui lui a dit à 20 minutes de la fin, d'habitude je faisais rentrer Diogo pour faire la différence. Et il était aussi extrêmement ému. Et me venue cette inspiration et cette question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous croyez que Liverpool peut être encore plus soudé après l'événement tragique qu'ils ont subi cet été? Voilà la question que j'aimerais vous poser. Un débat sérieux, pas de sensiblerie, mais un débat malgré tout qui vaut le coup de gagner.
Voilà, exactement. Voilà, pour le débat de Pascal, Diogo Jota, évidemment, on a vécu ça aussi sur RMC, ces moments-là vendredi. Fred.
Alors, je suis très surpris parce que je pensais que Sarah allait prendre mon débat et elle ne le prend pas finalement. Et je vais essayer d'être concis quand même. J'en ai marre des nouveaux formats, des Master 1000. On parle de 15 jours, mais en fait, c'est plutôt 12. Donc, ça s'arrête parfois en pleine semaine. On ne comprend rien du tout. Et parfois, en plus, ça t'empêche de faire les qualifs pour les tournois majeurs que sont que par exemple l'US Open. Donc voilà. Je voulais parler de ça et je voulais demander l'avis.
C'est un nouveau format qui divise pas mal.
Ouais.
C'est un bon débat.
C'est un excellent débat. Il y a plein de choses à dire.
Tu parles de foot maintenant, je sais plus ce qui se passe.
Mais parce que j'essaie de gagner.
Pardon.
Ouais. Tu crois à l'inverse de toi, Fred, Sarah et Pascal sont là pour gagner.
D'accord. Moi, je suis là pour participer. Tout ça, ça vous dit rien.
En général.
Non, mais hier, tu voulais participer, tu as gagné malgré tout.
Voilà, c'est ça.
On va faire attention.
Parce que Pascal était
faire attention à toi.
Ah oui, mais complètement.
Non, mais là, Fred était convaincu de perdre. C'est ça qui est fou. Bon, allez, on fera le bilan, évidemment, dans 35 minutes maintenant, dans les grandes gueules contre-attaque. Mais d'abord, c'est l'heure du bras de fer GG.
RMC, Le bras de fer GG.
C'est exceptionnel ce qu'elle est en train de réaliser, la Française Pauline Ferrand-Prévot, la championne olympique de VTT s'envole. Elle va les récupérer, les deux femmes devant.
C'est aussi notre travail d'être dans la meilleure forme pour ce jour. Je me préparais juste pour la plus grande course de ma vie.
Les derniers coups de pédale, allez, la voilà. Elle vient de passer la ligne d'arrivée, les bras en l'air et le sourire évidemment de Pauline Ferrand-Prévot qui s'adjuge l'étape reine aujourd'hui au col de la Madeleine.
En effet, elle m'a fait un petit peu peur. J'ai trouvé très très mince, très amaigrie, fatiguée.
Je sais pourquoi je l'ai fait et ça a été toutes les années comme ça. Déjà l'année dernière, j'avais fait comme ça pour les Jeux. J'avais fait, enfin c'est ma façon de faire et je sais que c'est pas pour toujours. Donc moi, ça me choque pas.
Allez, la ligne d'arrivée est dans quelques mètres. Pauline Ferrand-Prévot vient de passer la ligne, les bras levés. Évidemment, les émotions, mais c'est la reine. Elle est seule au monde, Pauline Ferrand-Prévot, sur ce Tour de France femme. Le maillot jaune sur les épaules, deux victoires d'étape et surtout la victoire de ce Tour de France.
Encore une fois, c'est aussi bien qu'il y ait des portes de parole et qu'il y ait des filles qui puissent permettre de tirer la sonnette d'alarme.
C'est un sujet important qu'on a déjà évoqué lors du Tour de France femmes, suite notamment à des déclarations coureuses comme Cédrine Carbajal. Mais il y a eu de nouvelles déclarations cette semaine. Celle de Marlène Reusser, la Suissesse, qui a déclaré en parlant de Pauline Ferrand-Prévot, on espérait secrètement qu'elle ne gagne pas. Elle a établi une nouvelle norme et lorsque des coureuses connaissent le succès, ça nous met la pression. La Française qui a en effet assumé, vous l'avez entendu, qu'elle avait perdu du poids pour performer sur les routes du Tour, tout en précisant que tout était parfaitement encadré par un nutritionniste. Cependant, c'est un sujet qui concerne le cyclisme, pas seulement féminin d'ailleurs. Le syndicat des coureuses professionnelles a d'ailleurs regretté qu'on ne parle que du cyclisme féminin en oubliant les hommes. Mais ce syndicat souligne aussi le manque de soutien sur le suivi santé des athlètes féminines en comparaison à leur homologue masculin. On en parlera d'ailleurs dans un instant avec Marion Rémilly, médecin du sport qui est engagé dans un groupe de travail sur le sujet. Mais d'abord, la question qu'on vous pose, parce qu'elle peut se poser, elle s'est posée dans d'autres sports, notamment le saut à ski, on pourra y revenir. Faut-il imposer une limite de poids dans le cyclisme? Dans la team oui, Fred Weiss, dans la team non, Pascal Duprat et Sarah Pitkowski. Alors, évidemment, c'est un sujet très sérieux. On va essayer de l'aborder avec le plus de précision possible et avec notre invité dans un instant. D'abord, je voudrais avoir votre avis, sachant que vous connaissez la règle de ce bras de fer. C'est celui qui est en retard par rapport au sondage sur le compte X des Grandes Gueules du Sport qui doit débuter. Et c'est donc Fred Weiss qui est à 26% pour l'instant, contre 74% de non. Il ne faut pas imposer une limite de poids. Donc Fred, toi tu penses qu'il faut imposer peut-être une limite de poids. Alors quand on dit limite de poids, évidemment on parle pas si du poids brut. On dit pas à moins de 60 kilos t'as pas le droit de faire le Tour de France. C'est pas ça l'idée, évidemment.
Non, mais par rapport à la qualité d'un athlète et au poids d'un athlète en forme, essayer d'imposer une limite de poids. Peut-être pas de poids d'ailleurs, juste peut-être aussi un taux de gras, de graisse. Enfin voilà, une IMC, je sais pas. Mais c'est en plus c'est drôle, c'est celui qui a le plus de problèmes de poids qui en parle. Mais en fait moi je suis inquiet. Quand je vois Cédrine Carbajal parler des filles qui n'ont plus leurs règles, des filles qui risquent d'avoir des problèmes osseux après, des filles qui peuvent être dans une extrême difficulté, qui peuvent se blesser très gravement, ben je me dis, si quelqu'un qui fait le Tour de France te dit ça, ben c'est qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème. Mmh. Et si elle s'inquiète, ben je me dis qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude. Ne pas avoir ses règles pour une femme, ça peut être très dangereux pour la fertilité, évidemment, mais il y a plein de dangers aussi. On est des athlètes, oui, mais on est des hommes et des femmes surtout. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pour après. Et en admettons que les coureurs professionnels soient surveillés tous les jours, mesurés, etc., et qu'il y ait moins de risques. Ok, admettons-le. C'est quand même un exemple pour la jeunesse. En fait, les jeunes qui vont voir ça, les jeunes qui vont commencer le vélo vont se dire, pour faire performer, il va falloir que je fasse ce genre d'effort, il va falloir que je sois d'une extrême maigreur. Et ça aussi, ça me fait peur. Parce que l'image qu'on a du Tour de France, c'est des athlètes extrêmement maigres. Donc, est-ce que c'est un bon signal qu'on envoie pour les jeunes qui sont moins surveillés, moins contrôlés? Ben, je suis pas sûr. Donc,
ça, c'est le sport. C'est ça. Le signal que tu envoies, c'est le sport de haut niveau, non?
Tu peux pas
mettre des normes. Tu peux pas mettre des normes partout. Donc, dans ces cas-là, celle qui fait 1m60, elle va faire du vélo et celle qui va faire 1m80, elle peut pas faire de vélo parce qu'en fait.
Mais non, parce qu'il n'y a pas un point maximum minimum. C'est par rapport à l'athlète en soi.
Les responsabilités individuelles, mais la responsabilité individuelle n'empêche
imposer,
pas.
Imposer. Hein.
Oui, mais n'empêche
Sarah,
pas la.
Quand tu vois,
n'empêche pas la prévention.
Pauline Ferrand-Prévot est un exemple maintenant. C'est-à-dire que la plupart maintenant vont faire des efforts, vont encore perdre du poids.
Elle a très bien expliqué. Non, mais... Elle n'a pas dit qu'elle maigre comme ça tout le temps.
Oui,
elle sait qu'elle a fait un objectif
je suis d'accord.
Qui fait que pour gagner en watts, elle a perdu en masse grasse.
Je ne parle pas d'elle en fait. Je parle de l'exemple qu'elle donne aux autres qui vont devoir être une extrême maigreur pour essayer de performer la même chose.
Et moi, c'est l'exemple qui fait peur. Pour incarner un exemple pour toute une jeunesse.
Un peu quand même.
C'est
le rôle des sportifs de haut niveau. Moi, en tant que sportif de haut niveau, quand j'étais sportif, je voulais être un exemple.
Même si tu le fais pas pour ça, tu as un impact quand même, forcément.
Mais tu as un impact. Mais on va pas te mettre des règles parce que la jeunesse doit avoir un message qui doit être.
Pour éviter qu'il y ait des dérives, pourquoi pas?
Dans ces cas-là, c'est plus du sport de haut niveau.
Mais bien sûr que si, ça reste du sport de haut niveau.
Pour moi,
à mon avis, leur masse grasse, elle est très très basse, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc il n'y a pas de grande différence. C'est juste ne pas descendre sous un seuil parce que ça devient risqué pour ta santé après, pour tes pour ton physique.
Mais en fait, les métabolismes, ils sont différents pour chacun. Donc même si tu mets un IMC
un taux de masse grasse.
Un taux de masse grasse, c'est ça. Le problème, c'est que les métabolismes des uns et des autres sont complètement différents. Donc en fait, si tu commences à encadrer ce genre de choses, c'est-à-dire que tu vas avoir des dérogations pour tout, parce que le métabolisme des uns et des autres, ta masse osseuse, elle est différente. Donc en fait,
mais c'est pour ça que la masse grasse est très intéressante. L'IMC est beaucoup moins intéressante parce que l'indice de masse corporelle n'est pas la même chose que le taux de masse grasse.
Tu peux pas mettre un chiffre qui descend du ciel en disant on estime que pour faire du vélo,
il descend du ciel.
Il doit s'adapter à tout le monde. Mais tu dois quand même mettre une limite. C'est ce que veut dire. Alors je vais donner la parole à Pascal, mais juste avant Pascal de te donner la parole, puisque je l'ai évoqué quand même, pourquoi on pose cette question? C'est parce que d'autres sports l'ont fait, et notamment en saut à ski, autrefois confronté à des problèmes d'anorexie, vraiment par des sauteurs à ski qui veulent être plus légers, hein, pour aller le plus loin possible.
Je serais pas un bon sauteur à ski.
Je suis pas sûr. Donc il y a certains qui sont tombés dans la dépression. Non mais juste, je termine pour dire que les responsables de la discipline, ils ont changé le règlement pour fixer un seuil d'IMC, donc d'indice de masse corporelle, en dessous de ce seuil de 20. Voilà le seuil qui a été fixé pour les sauteurs à ski. Le sauteur est pénalisé. Ça veut pas dire qu'il peut pas participer, mais il est pénalisé. Il est obligé de prendre des skis plus courts que la longueur maximale autorisée, ce qui évidemment l'empêche d'aller plus loin. Et donc voilà, c'est une réglementation qui a été faite pour protéger les sportifs.
Mais en fait, l'exemple que tu cites, il est très bon, mais cela dit, c'est pas un sport d'endurance de saut à ski. Ok? Et donc, si t'es mieux, il peut y avoir des dérives quant au saut à ski, parce que si t'es mieux, la performance athlétique, elle est dans la souplesse, dans l'orientation, l'angle que tu vas mettre à tes skis, l'envol que tu vas prendre sur le saut d'élan, mais tandis que le vélo, c'est un sport sur tapis d'endurance. Or, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on fait d'une volonté de Pauline Ferrand-Prévot, à savoir perdre 4 kilos pour être, on va dire, plus à l'aise dans les montées, sans déperdition de sa puissance. On fait donc de cette volonté, pendant un laps de temps très court, le temps du Tour de France, même si elle s'est amaigrie en quelques temps, sous contrôle médical, parce qu'elle l'explique bien, elle est bien sûr sous contrôle médical, avec l'appui de son diététicien ou diététicien de l'équipe. Je vois pas pourquoi on fait
j'ai aussi
beaucoup lu sur ce que disent les cyclistes. Certaines sont pas prêtes à perdre du poids pour augmenter leur performance. Ça les regarde. Mais en tout cas, PFP, elle a pas mis sa santé en danger. Il y a personne qui lui a imposé la règle.
Mais c'était donc pas l'exemple. Pourquoi en fait, l'exemple, c'est juste que l'effet loupe du Tour de France montre que
l'effet loupe,
qui a un BTS en nutrition quand même.
Fred, n'importe quel jeune qui veut s'adonner au sport, il doit comprendre à un moment donné que pour aller au meilleur niveau, il faut faire moult sacrifices. Et parmi ces sacrifices, notamment pour le vélo, mais bien d'autres sports, le nôtre, le football également, le poids est ton ennemi. La surcharge pondérale est ton ennemi.
Donc
si PFP, elle est à 7 de masse graisseuse, ou peut-être moins, j'en sais rien, et si elle supporte ceci par son alimentation, est-ce à supplémentation naturelle tout au long de de l'effort et de la course, ben je vois pas qu'est-ce qu'on a à redire. Je suis désolé, je vois pas qu'est-ce qu'on a à redire pour ça.
Mais quand il y a Cédrine Kerbaol qui s'exprime et qui dit qu'elle commence à avoir de vrais dangers, elle qui est à la fois coureur cycliste et à la fois
elle
a un BTS en nutrition, et ben je suis isolé, moi ça
m'a... Mais elle connaît le cas de PFP, mais on parle elle l'a étudié.
Elle voit les autres coureurs dans le peloton.
Tour de France, mais c'est toute l'année en fait.
Alors justement, on va accueillir Marion Rémilly qui travaille sur ce sujet toute l'année, depuis plusieurs années. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup, vous avez écouté tout le débat, vous êtes médecin des équipes de France de cyclisme et vous faites partie d'un groupe de travail mis en place par la Fédération Française de Cyclisme pour parler de ces sujets-là, de la nutrition, du syndrome Redes dont on va parler également. C'est pas depuis le Tour de France et depuis les sorties de cet été, bien évidemment, que la Fédération Française travaille sur ce sujet, hein.
Mais non, effectivement, en fait, l'essor du cyclisme féminin, ça fait quelques années que ça prend de l'ampleur. Là, le Tour de France a vraiment pris de l'ampleur cette année, mais le Tour de France, il faut bien se rappeler que c'était la 4e édition, donc ça fait 4 ans que les cyclistes professionnels essaient de donner le meilleur d'elles-mêmes, notamment au niveau du Tour de France. Mais donc, l'essor du cyclisme féminin, ça fait quelques années, et donc ça fait quelques années déjà qu'on est confronté à cette problématique.
Et justement, ce groupe de travail, est-ce que, puisqu'on posait cette question, il y a peut-être des conclusions qui vont venir pour se dire il faut imposer une limite de poids dans le vélo. Est-ce que ça pourrait être utile selon vous?
Alors le groupe de travail, effectivement, il a été lancé par le directeur médical fédéral Éric Ménadier, qui travaille à la Fédération depuis plusieurs années. Et il s'est posé en fait la question, il s'est tourné vers cette question depuis le début de l'année, là, 2025, et en proposant différents groupes de travail pour essayer d'avoir des réponses peut-être plus spécifiques et plus individuelles que justement un dépistage de masse. Et nous, la volonté, c'est vraiment pas de mettre des limitations, de faire des suivis réglementés, parce qu'en fait, tout ce qui est obligatoire est mal vécu, et comme vous disiez juste avant, en fait, c'est un problème plutôt individuel. Donc le but, nous, ça va être vraiment de faire de la communication, notamment envers les plus jeunes, et donc donner aussi des supports à tous les staffs, que ce soit les staffs médicaux, les staffs techniques, les encadrants, les éducateurs, vraiment leur donner de l'éducation par rapport à tout ça, pour pouvoir alerter plus rapidement si on est confronté à une coéquipière ou on a une suspicion, des choses comme ça. C'est donc de pouvoir alerter au plus vite et surtout pouvoir orienter vers les bonnes personnes, orienter vers le spécialiste de la région où la jeune coureuse, par exemple, va être licenciée, le spécialiste qui va se tourner vers ces questions et directement rencontrer un médecin du sport ou un psychiatre s'il y a besoin, voilà, d'avoir les bons acteurs en face de la problématique.
Marion Rémilly, médecin des équipes de France de cyclisme, qui travaille donc sur ces questions, notamment du poids, de la nutrition dans le cyclisme. Sarah Pitkowski.
Alors, moi, je voulais vous poser une question, Marion, parce qu'avec ces derniers articles, voire polémiques qui sont sortis, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, qui est ce fameux syndrome RED-S qui désigne ce déficit énergétique entre la dépense et l'entrée d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est vrai que ces derniers temps dans le sport, on a aussi révélé ces troubles mentaux, ou en tout cas les moments de dépression, de burn-out. Ce syndrome RS est quelque chose qui est assez fréquent. Est-ce qu'il est encadré? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors oui, le RED syndrome, c'est vraiment quelque chose qui est sorti ces dernières années, et il y avait vraiment un besoin d'encadrer ce trouble. Il reprend beaucoup de choses, notamment effectivement le déficit énergétique qu'on peut avoir entre l'entraînement, la charge d'entraînement qu'on va faire et le peu d'alimentation qu'on va avoir en face. Mais aussi il reprend des choses plus globales comme les troubles hormonaux, les signes psychiatriques ou psychologiques avec les dépressions, l'anxiété, une fatigue généralisée, un manque d'envie. Donc ça encadre beaucoup de choses, et peut-être quelqu'un qui a juste une problématique de poids va se dire j'ai pas trop de problèmes à part mon poids, et en fait d'autres personnes qui vont avoir plus de problématiques, on va dire, qui n'arrivent plus à aller s'entraîner, qui n'ont plus d'envie, qui ont des problèmes d'alimentation, en fait ça va complètement encadrer tous ces symptômes-là, et donc ça va peut-être encadrer plus de sportifs. Et alors ça prend un peu la suite de la triade de l'athlète féminine dont on avait connaissance ces dernières années, mais du coup la première problématique, ça prenait pas en compte les hommes alors que le RED syndrome, le REDS prend en compte aussi les athlètes masculins. On a des échelles maintenant. On est capable d'évaluer spécifiquement les athlètes. Si on a un doute, on a des échelles qui viennent notamment de l'UCI et qui encadrent les choses. On peut diagnostiquer quelqu'un et le classer dans différents grades, on va dire, quelqu'un qui a pas du tout de signe de REDS, quelqu'un qui va avoir quelques signes et quelqu'un qui est sévère. Et là, sur l'athlète qui va être sévère, on va avoir un traitement un peu spécifique et à mettre rapidement en place en phase. Donc on a maintenant des outils pour pouvoir évaluer les sportifs à risque.
Fred Weiss.
Oui, docteur, j'ai une question. Quand vous écoutez Cédrine Carbajal, je suis désolé, je l'ai pris souvent en exemple, mais c'est vrai qu'elle a été beaucoup exprimée dessus.
C'est elle qui est la première à s'exprimer.
Elle parle du problème de fertilité, du problème de la faiblesse des os qui se fragilisent, des risques de blessures énormes. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, justement, cette extrême maigreur?
Ah bah complètement. Après, il faut aussi recadrer les choses, se dire que ça représente un pourcentage de cyclistes féminines. Et là, le Tour de France met plutôt en exergue les grimpeuses. Il faut se dire quand même que sur une année de cyclisme, on commence par les classiques en mars-avril, où là, les cyclistes qui vont être les plus fortes sur ces classiques en général, sont des profils un peu plus en puissance, un peu plus en force, et ont moins ces problématiques. Mais c'est vrai que le Tour de France, c'est vraiment le reflet, on va dire, du cyclisme en général, que ce soit chez les féminines ou les masculins. Donc on parle beaucoup, beaucoup de poids. Et effectivement, il faut quand même se dire que ça représente pas la plupart des cyclistes féminines. Il y a même des athlètes féminines qui ont mis entre parenthèses leur carrière parce qu'elles ont eu des enfants. Il y a Aude Bianic là qui est revenue sur le Tour de France cette année. Donc il y a des cyclistes qui courent sur le circuit mondial, qui arrivent à faire des pauses et ont des enfants. Donc voilà, faut aussi rassurer par rapport à ça. Mais effectivement, le pourcentage d'athlètes qui vont avoir des problématiques de poids, elles mettent effectivement en danger à certains niveaux leur santé, et le but c'est vraiment de pouvoir les encadrer. Et au-delà de ça, le but c'est que ça n'arrive plus, en fait. C'est pour ça qu'on veut avoir un rôle plus d'éducation chez les jeunes générations, pour qu'elles aient mieux connaissance de leur corps, de leurs besoins énergétiques, de que voilà, tout peut être fait, mais ça doit être encadré par des professionnels pour ne plus justement arriver à des problématiques de surtout d'arrêt de carrière, en fait. Parce que les filles qui arrivent au Tour de France avec une gestion de poids, c'est qu'elles ont quand même bien réussi leur carrière, qu'elles sont arrivées sur le Tour de France. Mais on a beaucoup de jeunes filles qui vont arrêter complètement le cyclisme alors qu'elles étaient en plein essor pour des problématiques de poids, des troubles d'anorexie, et malheureusement ces jeunes filles là on n'en peut pas en parler et elles ont arrêté
ce sujet. Il est aussi bien féminin que masculin, on est bien d'accord, parce que là il y a eu un effet loupe
bien sûr.
Sur le Tour de France féminin,
des féminins quand même, parce qu'il y a ces problèmes de fertilité,
oui, mais la fertilité, oui, tu l'as aussi troubles hormonaux, tu les as aussi chez les hommes aussi.
Mais ce que regrette d'ailleurs le syndicat des coureuses, c'est qu'on dise les coureuses sont maigres, et puis à côté de ça on a des coureurs très maigres ils sont affûtés, voilà, et c'est ça le discours que l'on tient.
On n'utilise pas le même terme. Moi je me souviens mes premières fois quand j'étais sur le Tour de France et que j'étais aux arrivées, c'était dans les années 2010.
Ah, t'as fait le Tour de France?
Non, j'étais aux arrivées.
Ça m'a échappé.
Je n'avais pas dit que j'étais sur le vélo. Je me souviens des frères Schleck et d'Andy Schleck. Ouais, ouais. Quand je l'ai vu descendre sur le vélo et que j'ai vu des hanches qui faisaient la moitié de la mienne alors qu'il mesure plus d'un 85, j'ai été frappée. Mais après, quand j'ai vu les autres coureurs, j'ai vu effectivement que ses gabarits étaient très particulier, mais tu as raison.
C'est morphotype du cycliste.
C'est le morphotype, mais regarde aujourd'hui, on n'utilise pas les mêmes termes. On va dire qu'un paré-peintre, il est super affûté, et on va dire d'une Pauline Ferrand-Prévot qu'elle a mis des épingles à nourrice sur son maillot parce qu'en fait, il était trop large au niveau des bras, tellement elle avait perdu.
Il faut peut-être changer ce discours, effectivement.
Exactement. Ouais.
Voilà. Marion, c'est pas que féminin.
Non, et dans le cyclisme masculin, c'est quand même d'avoir des cyclistes affûtés, c'est le terme effectivement qu'on emploie. On a l'habitude depuis des années de voir à la télé des cyclistes affûtés. Alors c'est vrai que souvent c'est plus marquant quand on les voit directement de visu. L'athlète féminine, la femme de base a une masse grasse plus élevée, donc
exactement,
de voir un muscle affûté, ça on n'a pas l'habitude de voir, même chez les femmes les plus sportives. Il y en a quelques-unes qui vont avoir, qu'on peut utiliser le terme affûté, mais la plupart des sportives, on voit pas forcément le muscle saillant, les veines sortir. Alors là, du coup, c'est la première fois où on a vu, on a remarqué au niveau de Pauline Ferrand-Prévot qu'elle était affûtée, qu'on voyait le muscle saillant, on voyait ses veines sortir. Donc je pense c'est ça qui est marquant aussi, c'est qu'on n'a pas l'habitude forcément chez les athlètes féminines, et c'est normal parce que le taux de masse grasse est plus élevé chez les femmes. Donc voilà, une femme sportive, on n'est pas censé forcément voir son muscle saillant comme chez les hommes, alors que chez les hommes on a l'habitude de voir ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cet effet un peu marquant sur cette édition. Mmh.
Merci beaucoup Marion Rémy d'être passé. Je rappelle, médecin merci des Marion. Équipes de France de cyclisme. Merci, merci beaucoup pour.
Marion, elle ne parle pas que de tennis. Hein.
Bah, merci Marion. Non, c'est pas la même. Merci beaucoup d'être passé dans les grandes gueules du sport ce matin pour nous éclairer sur ce sujet, évidemment, dont on reparlera. Il y a d'autres infos sur ce sujet à retrouver sur rmcsport.fr. Et on va continuer les GG à parler de vélo avec, bah, lui, il est affûté. Hein. C'est Jérôme Pinault dans un instant, notre grande gueule vélo
mais
préféré.
Mais pas qu'au niveau du poids, au niveau des arguments, voilà. Il est affûté.
Et hein. Il va venir pour nous parler de la déclate ouais. Bianris cette semaine, le vainqueur. 96 du Tour de France, ouais. Qui a avoué être dopé jusqu'au cou, c'est ce qu'il a dit lors de sa victoire sur la grande boucle. Il assume et même il ne regrette pas. On en parle dans un instant dans les grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Sarah Pitkowski, Fred Weiss qui me parle alors que je fais mon lancement et Pascal Duprat dissipé. Fred Weiss, c'est parce que t'es en vacances bientôt?
Oui.
C'est pour ça? D'accord, bah, il reste encore un peu de temps, reste avec nous. Dans un instant d'ailleurs, ça sera à vous de prendre les commandes de l'émission. On va faire un petit point sur les votes et c'est assez serré, même si pour l'instant quand même Sarah Pitkowski se dégage, elle est quasiment à 50%, à 48%.
Ah ouais.
Juste derrière, le débat proposé par Pascal Duprat autour de Liverpool et du drame d'Hugo Jota. Et puis le Masters 1000. Pourtant, il a tenté du tennis pour une fois. Il parle pas de basket.
Je trouvais ça hyper intéressant.
Et ça marche toujours pas. À 24%.
J'ai gagné hier.
C'est vrai que t'as gagné hier. C'est vrai que t'as gagné hier. C'est vrai, c'est vrai.
Contre bravo. Toute attente.
Bon, on verra. C'est pas encore terminé. Vous pouvez encore aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Le résultat dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est la punchline GG. Signé Bjarne Riis, le Danois, vainqueur du Tour de France en 96, qui est revenu sur cette période lors d'un forum. C'était à Copenhague, au Danemark, chez lui. C'est la punchline. Écoutez.
RMC, la punchline GG.
J'étais dopé jusqu'au cou quand j'ai gagné le Tour. J'étais complètement dopé. Je savais ce que je faisais. Je ne le regrette pas. Car cela faisait partie de cette époque et d'un système que nous acceptions tous en silence.
Ah oui, c'est tellement dopé qu'il a la voix de Siri.
Il a perdu la voix.
C'est bizarre.
Il devrait regretter peut-être. Voilà,
ouais. Pas facile. Ah bon ? Je pourrais faire toute l'émission comme ça.
Eh bien, écoute, tu la feras tout seul.
Et je pense qu'il n'y aura plus personne qui l'écouterait.
Oui, exactement.
Bjarne Riis, vous l'avez entendu, donc vainqueur en 96. Il est toujours au palmarès du Tour. On va en parler. Bah, contrairement à Lance Armstrong ou Alberto Contador, il n'avait pas caché cette dopée, il l'avait déjà dit. Mais là, on l'a entendu, il précise que c'était le système qu'il fallait bien accepter. Alors, est-ce que ces propos vous choquent ? Oui ou non ? Pascal Duprat.
Oui.
Fred Weiss.
Non.
Sarah Pitkowski.
Bah non.
Eh ben on va demander son avis à Jérôme Pinault que l'on accueille tout de suite. Salut Jérôme.
Mon Dieu. Mon
salut Dieu. Les copains. Bonjour.
Salut Gigi.
Salut Jérôme.
Choqué ou pas choqué toi par les propos de Bjarne Riis?
Tu me la poses vraiment la question à moi. Mais évidemment que je suis choqué, évidemment.
Ouais. Alors évidemment, c'est bizarre. D'ailleurs, Fred, t'es le seul à dire non. Donc ah avant
non,
que
non, non, Sarah aussi.
Ah, Sarah aussi.
Sarah aussi.
Ah oui, Sarah. Ouais,
non,
bah, tiens, bah Sarah.
Je suis sur Sarah. Les fesses. Sarah
justement.
Aussi.
Bah, pourquoi tu dis non?
Ça me choque pas parce que, en fait, ça me choque pas sur le fait qu'il ne regrette pas. On est bien d'accord, ouais. Pas qu'il se soit dopé. Bah, parce qu'en fait, il est en droit de pas regretter. Il assume. Il assume ce qu'il a fait. Au-delà de ça, c'est tellement pas nouveau parce que ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on sait que Bjarne Riis était dopé. Ce qui me choque ou ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'ils soient encore au palmarès, ouais. En fait. Mmh. C'est qu'ils soient encore au palmarès de ce Tour de France.
Il n'y a que ça qui te choque.
Pardon ?
Il n'y a que ça qui te choque. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il soit directeur sportif ou qu'il l'ait été ensuite. Ça me choque beaucoup.
Ouais, ouais.
Vraiment.
Ouais, après. Ah,
alors qu'il ne fait pas preuve de repentance. Alors franchement, ça me choque beaucoup. Pardon, Sarah.
Ouais, non, mais je comprends sur la suite de sa carrière, mais en tant que coureur cycliste, oh, il succède à Miguel Indurain, mais on n'en sait pas plus non plus sur Miguel Indurain. Il est avant Contador et Lance Armstrong, en fait.
Bon, en fait, tout le monde l'a fait. Lui, il le dit et ça choque tout le monde. Ben, moi, ça me choque pas.
Tout le monde l'a pas fait.
En tout cas, c'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Qu'à l'époque, c'était un système.
Mais évidemment,
on a fait des doutes sur tout le monde.
S'il avait envie de se donner bonne conscience, il n'avait pas besoin de dire qu'il était dopé. Il suffisait de rien dire, en fait. Donc, quel intérêt pour lui de se donner bonne conscience?
Tu te dis
ça, ça a aucun sens.
Mais il dit ça en mettant tout le monde dans le même sac que lui. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui?
Quand tu peux l'avouer,
Gilles Delion, dans son époque, Gilles Delion, il faisait du vélo à Leclerc. Il a quand même sacrifié avec sa bande télécom et tous ses tricheurs certains garçons qui avaient peut-être envie de faire du vélo différemment. Pourquoi tu peux alors déjà on lui donne la parole, il le dit et dit ne rien regretter, mais c'est juste une honte. Ensuite on lui retire pas ses titres.
Ah mais ça c'est différent. Pourquoi on devrait retirer les titres, ça je suis complètement d'accord.
Et tu sais dans quel contexte, et là je suis sûr que mon ami Pascal va me suivre, tu sais dans quel contexte il parle de ça, il prend de l'oseille pour aller faire des conférences des entreprises, il dit ça, mais c'est une honte, c'est juste une honte. Il faut les faire taire, ces gens-là. Je crois qu'il y a deux catégories de personnes qu'il faut faire taire. Ceux-là, qui ont triché et qui disent qu'ils ne regrettent rien, et ceux dont on sait très bien qu'ils ont triché et qui disent « Ah non, pas moi. Eux, ils étaient au-dessus, encore pire. » Je crois que la deuxième catégorie est encore pire que celle de Bernard.
Ça va être dur,
Justement. Et on les met toujours en lumière et ils sont toujours là dans le microcosme. Ça, c'est encore pire. Mais ces deux catégories de personnes-là, moi, elles me font vomir. Elles vont chercher de l'oseille en faisant des conférences en disant, à l'époque, j'ai fait ça. C'était tout le système. Sans jamais savoir qui sont les autres et comment on fait les autres. Et je ne regrette rien. Je suis désolé pour les générations qui lisent encore, même si on sait qu'à cette époque-là, mais c'est catastrophique. C'est tout autant catastrophique que le débat d'avant. On dit pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Non, il faut arrêter de stigmatiser des performances là-dessus, mais le cyclisme c'est pas non plus que du dopage et lui t'as l'impression que c'est normal. Et non, je suis désolé, il faut condamner ce genre de prise de parole. Et c'était très bien d'ailleurs lors du départ du Tour de France au Danemark, le mec est tellement bien vu chez lui parce que dans le même article il dit oui quand je retourne au Danemark je suis bien vu. Non mec, t'as même pas été invité au départ du Tour de France chez toi, tellement t'es un paria. Par contre les entreprises qui lui donnent de l'oseille pour venir dire ces conneries là, faut qu'elles arrêtent.
Après
qu'elles
il est pas tant un paria puisqu'il a été bien. Comme le disait Pascal, directeur sportif chez Saxo Bank.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, exactement aujourd'hui, Pascal, moi j'étais coureur quand il était directeur sportif, et il nous écrasait encore avec sa hauteté et sa puissance. Et ça, c'est juste délétère, c'est à vomir ce genre de personnage.
Pascal.
Non, mais il est difficile de rajouter davantage après Jérôme, mais quand je lis que même quand il a été manager, bah, fatalement, il encourageait ses coureurs à prendre des produits interdits. D'ailleurs, je crois que dans un livre, Taylor Hamilton, il en fait état. Donc, s'il le balance dans un livre, c'est que ça devait être vrai. Parce qu'autrement, il s'en défendrait, si t'es mieux. Donc, moi, ce qui me choque, franchement, qu'il ait conservé son titre, j'en ai rien à foutre. Mais qui soit autorisé à piloter en fait de jeunes coureurs dans la carrière professionnelle, ça me heurte beaucoup quoi. Parce que le gars, il s'est dopé. S'il fait preuve de repentance, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a enfoui dans un coin de sa tête et qu'il ne referait plus aujourd'hui, si tant est qu'il nous dise qu'il regrette. Mais en plus, il nous dit qu'il regrette pas.
Tu préférais un regret de façade? Moi, je préfère quelqu'un qui assume, qui a dit, OK, j'ai été dopé.
Mais par rapport à la jeunesse, moi, je te parle. Mais oui, mais je m'en fous de la façade.
C'est pas parce qu'il ne regrette pas qu'il inculque ça au suivant. Je pense que.
Puisqu'il dit, il encourage des coureurs quand il était directeur sportif à se doper. Attends, Fred.
Après, il parle de système. Alors, certes, Jérôme, t'es mieux placé pour savoir qu'il y a tout le monde n'a pas fait comme ça. Mais quand on regarde le classement de 96, Ulrich, derrière il y a Virenque, Richard Virenque par exemple, et alors voilà, il était au Tour de France, il était invité lors des émissions, etc. Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ce passé-là?
Mais tu dis, il faut pas regarder le classement comme ça, François. Tu regardes le classement avec ces garçons-là, mais si tu regardes plus loin, t'as certainement des jeunes, et j'en connais certains.
C'est pour dire, ils sont toujours là,
Virenque, on l'entend encore parler de vélo. Moi, j'ai couru à une époque où des Emmanuel Magnin, des Damien Azon arrivaient dans le vélo, mais ils se faisaient broyer. Et ces gamins-là, s'ils voulaient pas se doper, bah, ils étaient nuls.
Bah, donc, c'est ce que
le problème, c'est qu'ils ont institué ça. Et l'autre te dit.
C'est exactement ce qu'il
est en train
de dire.
C'est ce que dit Riz. Il dit qu'il y avait un système institué.
Il y avait un système, et si tu refusais le système, t'étais pas dans le système. Et ben,
Non, tu peux aussi.
Dis-le que tu regrettes malgré tout, Fred.
Alors, t'as aussi. Tu regrettes. Quand t'as un peu de courage et un peu de coronesse, tu peux aussi dire, bah non, moi j'en veux pas. Et si t'instaures un système, tu peux l'instaurer dans l'autre sens. C'est de la faiblesse de dire, bah ok, on fait comme ça. C'est de la faiblesse. Je suis désolé. Tu peux aussi refuser ça et dire, bah non, moi je fais autre chose.
Au sein d'une équipe où t'as un leader, où
les garçons,
t'as un leader,
les filles, je suis passé professionnel en 2002. On avait encore en 2002 un certain nombre, voire un très grand nombre de coureurs qui se dopaient. J'aurais pu tomber là-dedans et je suis désolé, je suis jamais tombé là-dedans parce que mon équipe et mon caractère a fait que non, en fait. J'avais envie de me regarder dans la glace.
Tu viens de le dire, ton équipe.
Tu viens de le dire, ton équipe.
Tu es
accompagné par une équipe qui ne le prenait pas. Sauf que tu tombes dans une équipe qui le prenait. Tu fais comment? C'est-à-dire que j'arrête.
C'est de la facilité.
Tu rentres dans un système.
Il est arrivé dans une équipe française, Castorama. Il passait pas un pont d'autoroute. Il était chez Castorama. Il marchait pas une cacahuète. Il passait pas un pont d'autoroute. Il passe chez Télécom. Il dit, ah bah, le système est comme ça. Et maintenant, je triche et gagne le Tour de France en montant au taquin sur le plateau. Il dit, je regrette rien. Mais il est malade. C'est des malades.
Parce que peut-être, justement, il passait pas un pont d'autoroute. Il s'est rendu compte qu'on se doit pas.
Son vrai niveau, c'est le mec qui fait 80 plombs et qui passe pas un auto.
Jérôme, ça, c'est rassure-moi, ça n'existe plus le dopage dans le vélo.
Évidemment.
Rassure-moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci.
Mais juste quand même, pour revenir sur Biarritz et sur les organisateurs du Tour de France, après une déclaration comme ça, c'est impossible qu'ils soient encore au palmarès.
Sauf qu'il n'a jamais été chopé, c'est une vraie problématique de fond, il le dit, il dit j'ai même jusqu'au cou.
Donc à bout d'un moment,
mais Lance Armstrong non plus, Fred.
Oui,
Lance Armstrong non plus. Tu sais, moi je suis pas très ami avec Johan Brunel, qui je crois me le rend bien, mais le directeur sportif de Lance Armstrong de son époque a avoué, quand il était chez ONC, avoir eu recours aux produits dopants. Aujourd'hui il est révolté parce qu'il est persona non grata sur le Tour. Sur ce sujet là moi je le comprends. Parce que si on donne la parole à des gens comme Biarritz, et s'il y a encore sur le Tour des gens qui étaient de cette époque-là et qui gagnaient des courses à cette époque-là, ou alors à l'époque tout le monde était dopé, comment il peut être interdit et personne n'en gratta, ce cher Johan Brunel, alors que d'autres, ils font la pluie et le beau temps. Moi je le comprends dans ces cas-là, tu vois.
Et c'est pour ça qu'il faut faire cette période-là,
soit on fait table rase, soit on dit bon ok, c'était comme ça, et on oublie tout. Mais c'est juste inacceptable pour les gens qui n'ont jamais rien fait. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions et déjà arrêter de donner de l'oseille à ces gens-là pour qu'ils aillent dire de telles bêtises devant des centaines de personnes qui les écoutent bouche bée.
Mais ça peut empêcher des sociétés privées de faire ce qu'elles veulent, par contre. Jérôme, tu peux pas.
C'est bien dommage qu'on n'ait pas meilleur message à faire passer que Biarritz.
Ça, on est d'accord. Je rappelle juste que
Romain Bardet vient d'arrêter. S'ils veulent faire des conférences, ils peuvent les faire avec
moi. Jérôme Pinot, c'est un peu très intéressant. En fait, Jérôme Pinot,
moi, ce qui m'embête avec Biarritz, c'est que donc il a sali comme d'autres le vélo, qui est un sport magnifique, et il continue aujourd'hui à le salir. Donc c'est juste désespérant, quoi. Moi c'est ça, c'est
en disant je regrette pas, quoi.
C'est désespérant, ouais. Voilà. Franchement, c'est désespérant.
Toujours pas choqué, Sarah?
Non, je suis pas choqué. Il assume ce qu'il a fait. Mais je suis d'accord avec le jugement qu'on a de Biarritz aujourd'hui.
Mais Fred, tu viens de dire quelque chose. Les conférenciers, d'autres pourraient l'être. Mais évidemment que d'autres pourraient l'être. Tu sais qu'il y a un paquet de coureurs avec 60% du taux d'hématocrite. Moi, le premier, je pense que j'aurais été pas mal. Parce que lui, c'est juste un produit de la chimie. S'il reste chez Casto, et qu'il découvre pas le PO. Il fait jamais les conférences à 300 000 balles la demi-heure. Son seul fait d'arme, c'est de gagner le Tour. Mais à 60% de PO, évidemment qu'il a gagné. En fait, je crois qu'on aurait été incapable de monter plus vite.
Je crois qu'il était plus que 60%, non, c'est pas ça.
Non, mais je sais bien, Fred. C'est l'image que je te dis. Le débat, il est, est-ce que ça me révolte? Bah oui, ça me révolte. Il fait toute sa carrière sur un truc qu'il a volé. Et en plus, il dit, je regrette pas. Eh mec. Mais tais-toi, disparais. Fais ton truc, cache-toi en Suisse là-bas, mais donne pas des leçons et surtout ne dis pas devant le monde entier. Mais je regrette pas. Je vous ai tous enfumé, mais j'en regrette pas.
Par contre, juste quelque chose d'important. Ouais, je suis l'agent de Jérôme Pinot, me contacter directement pour une intervention.
C'est beaucoup plus que 300 patates.
300 000, c'est les 3 minutes.
Merci Jérôme, merci mille fois d'être passé. Heureusement que tu es venu comme ça.
J'ai eu un coup de chaud là, je suis à Marseille, j'allais me baigner là, gars.
Et ben bonne baignade et à très bientôt sur
Salut
RMC.
Pascal,
merci
bisous
beaucoup.
Bisous,
ciao.
Allez, on revient Jérôme. Dans un instant dans les grandes gueules du sport.
On sait comment énerver Jérôme. Hein.
Ouais, tu parles de Biarritz.
Ouais, ou de Lance.
Ou de Samson.
Moi j'aimerais bien les mettre dans une pièce en même temps, mais je sais pas.
Sur un ring.
Allez, on revient dans un instant. On va voir si c'est Madame 60%.
Ah ouais, Madame 60%.
On va voir si les chiffres te permettent de remporter cette contre-attaque. Sarah, on en parle dans un instant. instant, vous pouvez encore voter. Allez, restez avec nous, on revient dans une minute sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, 10h47, en direct avec Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Merci beaucoup de nous écouter ce matin. Dans un instant, les GG vont passer la seconde. On va s'intéresser à l'an 2 de Mbappé au Real Madrid, dans cette saison aussi de Coupe du Monde. Est-ce que cette saison est un tournant dans sa carrière? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Mais d'abord, les GG prennent les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Elles vous ont proposé un débat, c'est vous qui avez choisi votre débat préféré, troisième et dernier. Bah, on ne peut pas gagner à tous les coups, Fred Weiss, qui avait proposé un débat autour du tennis et des Masters 1000 à rallonge. 23% pour toi, Fred.
Oui, c'était le meilleur débat.
Belle troisième place, en tout cas.
Pour une fois qu'il y avait un bon débat, je perds.
Une belle médaille. Oui, il faut faire des débats pourris pour gagner.
C'est ça.
Ça, t'as compris. Deuxième place pour Pascal Dupraz avec le débat autour de Liverpool. Est-ce que ça pourrait resserrer les liens et cette nouvelle... souder le groupe après la mort de Diogo Jota. 31% pour toi, Pascal.
Je suis déçu, j'aurais voulu parler
on pourra en parler, je pense,
la mémoire de Diogo Jota et également du Liverpool FC et surtout de cette dimension que j'ai vue, à savoir un club qui se surpasse alors qu'il lui arrive un malheur incroyable. Mais bravo à Sarah.
Bravo Sarah, 46%. Tu as remporté ces grandes gueules contre-attaque. Elle est contente, ouais. Sarah. Chaque fois qu'elle gagne, c'est comme sur un cours là.
Bah oui, parce que ça arrive tellement rarement.
Comme sur un cours.
Ouais. C'est le principe du tennis.
Vas-y, Sarah. Alors, on t'écoute. Tu voulais parler de Ligue 1 Plus.
Oui, alors, on en a parlé bien ici, hein, sous différents angles. Moi, l'angle aujourd'hui que je sens depuis lundi, avant que la Ligue 1 reprenne, on voit des articles qui tombent, on entend des joueurs eux-mêmes qui appellent à un abonnement, j'ai envie de dire comme chaque saison, hein, quand c'était Mediapro ou DAZN. Et cependant, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme de consensus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce besoin de sauver la Ligue 1 et donc de s'abonner à Ligue 1 Plus. Mais est-ce que c'est parce que c'est pas un acteur privé, comme ça l'était une chaîne privée, même si dans l'absolu Ligue 1 Plus est une chaîne privée, mais c'est pas un acteur extérieur à la Ligue 1? J'ai quand même l'impression qu'on est plutôt condescendant, un consensus, que les articles sont positifs. Alors moi, je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous avez regardé les premières diffusions, les premières images? Bon, il y a eu des petits bugs, le casting. Et est-ce que pour autant tout est beau dans le
Tu veux qu'on tape sur les confrères, toi?
Mais non, mais
elle est polémique quand même, Sarah. Vraiment,
est-ce que tout est beau dans le meilleur des mondes aujourd'hui? Parce qu'il faut atteindre très vite ce million d'abonnés.
Si tu poses cette question, c'est que ça te dérange un petit peu qu'on fasse une publicité comme ça de Ligue 1 Plus.
Je m'étonne. On est quand même un pays latin et on est quand même les premiers à critiquer le moindre truc. Et là, comme par hasard, j'ai quand même le sentiment, et quand je lis, et même les commentaires, hein, quand tu vas sur Twitter, sur Instagram, quand tu lis les articles, c'est super, il faut y aller. Enfin voilà, et je trouve un peu étrange ce consensus. Et donc voilà, est-ce qu'il y a cet effort de solidarité qu'on est en train de faire malgré nous?
Mais je crois qu'on est obligé. Je crois qu'on est parti sur une union sacrée. Je crois que on aurait préféré vendre ça très cher et que ça se passe super bien. Ça s'est pas bien passé. Et moi, je suis plutôt content que le foot se retrouve. Je suis plutôt content que tout le monde tire du même côté et que tout le monde veuille avancer de la même façon. C'est important. Le foot, on a besoin parce qu'on sait qu'il y a cet effet domino aussi avec les autres sports après. Et c'est un peu l'inquiétude de tout le monde parce que on se dit que si ça se passe mal pour le foot, qui est le sport numéro un partout, ça risque d'être difficile pour les autres sports aussi. Donc je pense qu'il y a ce consensus aussi qui existe. Et je me dis qu'enfin, peut-être qu'ils se rendent compte que c'est important. Quand j'entends les joueurs parler, dire on va ouvrir les vestiaires, on doit parler plus, c'est juste qu'ils ont enfin compris. Mais j'ai l'impression qu'il aurait fallu leur mettre des claques sur la tête, pour qu'ils le comprennent. C'est important. On en a parlé hier. Le divertissement est important. Il faut ouvrir les vestiaires. Il faut montrer d'autres choses. Il faut faire avancer le foot parce que le foot, juste le match, ça ne suffit plus. Et je trouve que, au contraire, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est important. Et si tu veux sauver la Ligue 1, bah t'es quasiment obligé, si t'es fan de foot, de d'aimer ça,
ou en tout cas
de montrer que tu l'aimes en t'abonnant. Ouais. Et tu t'inquiètes pas. Et t'inquiète pas, hein, t'inquiète pas,
légalement.
Les critiques arrivent quand même.
Après, on peut écouter aussi sur RMC, et c'est gratuit, on précise, Pascal.
Oui. Et puis c'est très bien. Surtout quand tu es du milieu, quoi. C'est normal que les joueurs communiquent favorablement pour l'achat.
On avait fait ce débat, Pascal, avec toi, je me souviens, et tu avais dit, oui, moi, je vais m'abonner, mais pas pour sauver la Ligue 1. C'est pas.
Non, parce que j'ai pas vocation à sauver la Ligue 1, ou sauver les fesses qui brûlent des présidents de club qui ont fait quelques conneries depuis un certain temps. Cela dit, ce qu'on doit, c'est leur argent, attention, hein. Et ça, je les respecte. Parce qu'on oublie bien souvent que, à la tête de ces clubs, il y a peut-être quelquefois des multinationales, mais il y a aussi des personnes qui prennent des risques, et il y en existe encore. D'ailleurs, saluer le président de Montpellier, saluer Kita également à Nantes, parce que c'est leur argent au départ. Et ils portent leur couronne avec leur argent. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui tranche par rapport à ce que nous avons vécu ces 2-3 dernières années, c'est qu'enfin, la communication, elle est alignée, et la communication, elle est, ma foi, bonne. Et la deuxième chose, c'est que la politique tarifaire, elle est, on va dire, cohérente.
Donc,
à partir de là, on faut leur souhaiter que ça marche. Après, c'était la première. Bon.
Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé?
Ah, je peux pas. En fait, si t'es mieux, je dois être parti.
Il a pas aimé l'OGC Nice.
Je peux pas tailler mon. Je peux pas tailler mon milieu si t'es mieux. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pour la plupart, ce qui est important pour moi, c'est, je pense que il faut que les garçons qui sont à l'antenne s'expriment bien. C'est pas toujours le cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit et j'en ai trop dit. Pardon.
Alors
après, il y a eu
des noms, Pascal. À chaque fois, on veut des noms.
Il y a quand même un retour un peu en arrière, c'est-à-dire qu'on est reparti sur un peu à l'anglaise, le vouvoiement. La tenue très stricte.
Ça tranche avec DAZN qui voulait moderniser un petit peu, parler plus aux jeunes. Il y avait des humoristes.
Très objectivement, c'est très excluant de se tutoyer. Donc moi je crois
que nous on fait que ça sur RMC,
mais en fait c'est pas le même
principe. Mais le média radio et le média télé n'est pas le même.
Non, mais le média est pas exactement
le même. Le média n'est pas le même.
Oui, il y a une volonté un peu de montrer une chaîne classe, quoi.
Oui, une chaîne un peu smart. Après, moi j'ai aimé. Alors je suis peut-être très footix, mais en fait, je savais pas que les capitaines signaient.
Cette petite séquence Insight, moi j'ai trouvé très sympa aussi.
Tu vois, c'est des choses, je savais pas qu'on signait. Comment je peux.
Même le match du dimanche matin, tu signes ta petite.
Je savais pas qu'on signait. Donc, c'est des petits biscuits qui peuvent être intéressants au fur et à mesure. Après, moi j'ai une petite critique.
Ah, vas-y. Elle va casser quelqu'un là.
Où sont les femmes?
Il y a Marina Lorenzo.
Oui, et Leslie, c'est
Leslie
tout.
Leslie Boitrel,
c'est tout. Mais sur le plateau, pas encore. Voilà.
Il y a Alicia
ça va peut-être s'ajuster. Il y a plein de choses qui vont s'ajuster, mais pour l'instant, c'est encore très masculin.
C'est que des débuts.
On a l'impression quand même de débuts préparés. On a l'impression de débuts préparés. C'était pas le cas ces dernières saisons. On a l'impression que c'était à l'arrache.
Ça a été travaillé.
Je pense que ça fait plus d'un an qu'ils y pensent.
C'est largement plus chiadé que ce qu'on avait vu jusque-là.
Mais justement, c'est aussi ce décalage-là par rapport à ce qu'il y avait avant, même en termes de tarifs.
Parce qu'entre le prix et ce qu'on avait aujourd'hui, on est cohérent.
C'est peut-être pour ça qu'il y a des bonnes critiques aujourd'hui que tu as pu lire, Sarah.
Moi, je suis pas dans le secret des dieux, mais ce qui compte, je l'espère. J'espère que les relations vont encore mieux se réchauffer. Mais le foot français a aussi besoin de Canal, partie prenante. Parce que je suis désolé, le foot, c'était Canal+, et comment dire, montrer le sport. Je suis désolé de dire que Canal+ a été précurseur en France. Elle a montré comme personne ne l'a jamais montré.
Mais il l'a réalisé.
Tiens, pour alimenter ton débat, Sarah, on va écouter quelques jeunes qui ont été interrogés par RMC juste après le début de la Ligue 1 pour savoir s'ils se sont abonnés ou pas à cette chaîne Ligue 1+. Écoutez.
Quand je regarde, c'est de façon illégale. Parce que je regarde pas le championnat beaucoup, et donc quand je regarde les matchs importants comme je sais pas Paris-Marseille, je prends pas la peine de prendre l'abonnement, juste je regarde sur un site pirate ou juste histoire de voir un match occasionnellement. C'est important si on aime bien la Ligue 1 de prendre l'abonnement. Et moi perso, c'est pas le championnat que je regarde le plus, donc j'ai pas besoin trop de l'abonnement. C'est pour ça que
je le prends pas.
J'ai surtout commencé à partir de l'année dernière à regarder la Ligue 1. C'est plus dans l'intérêt du PSG pour moi. Et donc en soi, je ne regarde pas les autres matchs. Mais après, avec tous les transferts, tout ça, je pense que je vais beaucoup plus regarder la Ligue 1 et potentiellement les autres équipes comme Monaco. Cette offre m'intéresse. Pour un prix à 10 euros, bah, c'est beaucoup mieux que l'année dernière en tout cas. Mais pourquoi pas, après, je ne suis pas sûr de mon choix. Peut-être que je vais continuer à rester sur IPTV, mais en tout cas, cette offre m'intéresse.
Ah oui, forcément, hein, y a le piratage et ça, c'est vraiment le gros chantier. Il faut absolument lutter contre ça pour l'objectif
pour
1 million.
Parmi tous les chantiers
en France.
Parmi d'autres chantiers. Nicolas Taverneau sera l'invité exceptionnel de l'Afterfoot demain à 22h pour faire un premier bilan, justement le patron de l'FP Média de ce week-end Ligue 1+. Très bon débat Sarah, bravo pour cette victoire. Les grandes gueules qui reviennent dans un instant, on va parler de Mbappé. Je sais que ça te passionne aussi Sarah. Sa deuxième saison à Madrid, c'est dans pas longtemps, ça va débuter mardi prochain pour lui. Et cette saison sera-t-elle un tournant dans la carrière de l'attaquant français? On en parle tout de suite sur RMC et on sera à Madrid avec Edgar Grolot, notre correspondant en Espagne. Et avec vous au 32-16, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.